C'est gentil, mais vous ne savez pas encore ce que je vais dire, alors peut-être vous ne devriez pas applaudir. Vous avez la foi que je vais être biblique ce matin ? Ouais. Merci pour votre confiance. Je voudrais commencer par vous poser une question. En fait, ce n'est pas moi qui la pose, c'est Paul qui vous la pose. C'est Paul qui vous la pose dans 1 Corinthiens 3, 16. Et il dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Alors, je vais vous la reposer, cette question. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Je veux dire, Paul, il a exhorté les Corinthiens sur cette question-là qui était en fait une évidence. On le relira un peu plus tard dans un passage un peu plus complet où il leur dit « Mais bon sang, vous ne savez pas encore ça ? On en a déjà parlé, vous le savez. » Eh bien, tout ça, ça a des implications. Moi, déjà, je voudrais démarrer en disant que je trouve que c'est complètement incroyable que Dieu il nous fasse cette grâce de venir habiter en nous par son esprit, parce que c'est rien d'autre qu'une grâce. Mais je trouve ça complètement incroyable. Enfin, souvenez-vous, la Bible, elle dit que les cieux des cieux, même pas les cieux des cieux ne peuvent contenir l'Éternel, tellement il est grand, tellement il est immense, tellement il est majestueusement infini. Et pourtant, il nous fait la grâce de dire « Je viens habiter en vous par mon esprit ». Waouh ! Je veux dire, c'est complètement incroyable. Moi, ça me dépasse déjà que Dieu puisse faire ça, mais Dieu peut toutes choses. Mais ça me dépasse encore plus du coup que Dieu choisisse de faire ça. Et que ce soit pas quelque chose de subi par Dieu que d'être tombé dans nos cœurs, mais quelque chose que Dieu ait choisi de venir habiter en chacun de nous. Et c'est une grâce merveilleuse que pour chacun de nous, hein, que de porter la présence de Dieu en nous, en nous. Alors la Bible, elle nous exhorte de nombreuses fois, il y a beaucoup de versets là-dessus, à considérer que Dieu y fait de nous son temple, hein, chacun de nous en tant qu'individu, mais aussi ensemble en tant qu'Église. Hein, il y a plein d'exhortations, on va en passer quelques-unes. En tant que communauté, l'Éternel nous dit aussi, là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Hein, il y a plein de versets comme ça. Donc il y avait, on parle du temple, hein, il y avait un temple physique dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, qu'on retrouve, un temple physique qui a été bâti à Jérusalem, qui répond à un certain nombre de règles. Et ce temple-là, j'aimerais qu'on puisse y penser ce matin comme une préfiguration du temple qui était à venir et qui, lui, est un temple spirituel. D'accord ? Il y avait un temple physique à Jérusalem qui a été construit, qui était bon pour l'alliance que Dieu avait faite dans ce temps-là avec le peuple d'Israël. Et ce temple était une préfiguration de ce nouveau temple que Jésus a inauguré et qui est aujourd'hui chacun d'entre nous, en fait. Hein. Jésus, il a dit « Détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai. » Est-ce qu'il a menti ? Non, c'est ce qu'il a fait. Le temple de Jérusalem, aujourd'hui, il est détruit. Mais il y a un temple qui subsiste pour l'éternité, et il est spirituel, ce temple-là. Il a été inauguré par Christ, il est au travers de Christ, et il est en chacun de nous. Ok ? La Bible est sans équivoque sur le parallèle et la symétrie absolue entre ce temple et ce lieu de la présence de Dieu dans l'Ancienne Alliance, et ce temple dont nous sommes les pierres vivantes aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. D'accord ? Il y a une symétrie absolue entre les deux. Et 1 Pierre 2,4 nous dit ça, « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » Amen. Et je voudrais ce matin qu'on regarde ensemble à cette dimension du temple de Dieu que nous sommes les uns et les autres et que nous sommes aussi ensemble en tant qu'Église. Et pour ça, on va s'intéresser en fait à trois fonctions majeures, trois fonctions essentielles que représentait et que remplissait le premier temple physique et qui peuvent nous parler à nous aussi, hein, je parlais de cette symétrie, alors que nous sommes maintenant le temple du Saint-Esprit. Alors, le temple physique, il était premièrement un lieu d'habitation. C'était le lieu d'habitation de Dieu au milieu de son peuple. C'était le moyen par lequel Dieu assurait sa présence au milieu du peuple d'Israël, parmi ce peuple-là. Souvenez-vous que Jésus, il n'avait pas encore été sacrifié pour nos péchés. Hein ? Que celui qui entrait dans la présence de Dieu, si Dieu était répandu au milieu de son peuple, ça ne pouvait pas marcher comme ça. Parce que celui qui entrait dans la présence de Dieu en tant que pécheur, il mourait. Donc si Dieu demeurait au milieu de son peuple, répandu sur toute chair, alors que Jésus n'avait pas été pourvu en sacrifice parfait, le peuple mourait. Mais, parce qu'il ne peut pas tenir face à la sainteté et à la perfection de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui ne peut pas tenir face à notre péché, hein. C'est notre péché qui ne tient pas face à la sainteté de Dieu. Et donc, il y a une manifestation évidente de la grâce de Dieu que de bâtir un temple, un lieu où il va pouvoir demeurer séparé, mais être au milieu de son peuple. Et il manifeste déjà, au travers de cette vision du temple, au travers de ce qui a été fait, parmi le peuple d'Israël, en préfiguration de ce que Jésus allait faire, son désir que d'être avec nous et que d'habiter parmi nous, d'habiter parmi son peuple, de vivre avec nous jour après jour. Je vous rappelle que même celui qui a rattrapé l'arche parce qu'elle allait tomber, il a fait ça parce qu'elle était extrêmement précieuse. Il avait un honneur pour cette présence de Dieu qui était transportée là dans cette arche. Et cette arche, elle allait tomber. Et il rattrape cette arche. Il l'empêche de tomber. Je veux dire, tout est louable dans ce qu'il a fait. Mais pourtant, au moment où sa main touche l'arche, il meurt. Il meurt. On ne rigole pas avec la présence de Dieu. Le péché n'est pas quelque chose de n'est pas juste une idée, un concept philosophique, les amis. Ce qui se passe dans l'alliance que Dieu fait avec les hommes et dans la manière dont le péché a séparé les choses, dont nous sommes séparés de Dieu à cause du péché, est une réalité. C'est une réalité. Et pourtant, et je le redis encore, Dieu manifeste sa grâce au travers du temple. Voilà. Il témoigne son désir d'être avec nous, et ce désir, il n'a pas changé dans la nouvelle alliance. Hein, il y a Jésus qui nous le rappelle en disant dans Jean 14, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. » Que les mots sont forts. « Nous établirons domicile chez celui qui garde les commandements de l'Éternel. » Jésus et le Père. Et Paul, il nous le rappelle également dans 2 Corinthiens 6, où il nous dit, « En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Et Paul, là, il fait le lien entre le premier temple physique et nous, en tant que temple du Saint-Esprit, en rappelant en fait ce qui a été annoncé par le prophète Ézéchiel dans Ézéchiel 37, où en fait Ézéchiel dit ces paroles au peuple d'Israël, « De la part de l'Éternel, je serai leur Dieu, vous serez mon peuple, j'habiterai parmi vous, je marcherai parmi vous. » Et Paul reprend cette même promesse pour nous, alors qu'il nous parle d'être le temple du Saint-Esprit, les uns et les autres. Et on retrouve cette même déclaration jusque dans Apocalypse. Dans Apocalypse 21, vous trouvez la même déclaration de l'Éternel pour tous les rachetés, avec ce désir de Dieu de dire « Je serai parmi mon peuple, j'habiterai parmi mon peuple, je serai leur Dieu, je marcherai parmi eux. » Voilà le désir de Dieu, de toute éternité, d'être en relation avec chacun d'entre nous. Et ce moyen du temple est juste une grâce incroyable. Alors, voilà la fonction première du temple, un lieu où Dieu demeure. Et qu'est-ce que ça implique pour nous? Ben, ça implique premièrement que cette parole de Jésus, elle est vraie quand il dit « Je suis avec vous tous les jours ». Voilà ce que ça implique. Et ça implique aussi qu'il n'y a donc aucun moment, qu'il n'y a aucune saison de nos vies où Dieu est absent. Je ne sais pas si de temps en temps vous avez l'impression d'être tout seul à crier dans le désert. Je ne sais pas si vous avez l'impression d'être dans la nuit noire et de faire « Ohé, ohé, ohé ». Oui, des fois nos oreilles sont bouchées. Oui, des fois nos yeux sont masqués. Oui, des fois même nos bouches sont rendues muettes. Oui, il y a des saisons comme ça dans lesquelles on passe et où on a l'impression d'être absolument seul. Et pourtant, ce que la Bible déclare, c'est que Dieu n'est jamais absent de nos vies. Pourquoi ? Parce que alors que nous avons donné nos vies à Dieu, alors que nous sommes nés de nouveau, Dieu vient demeurer en nous. Et il ne nous dit pas qu'il vient demeurer et puis qu'il s'en va, et qu'il vient et qu'il s'en va, et qu'il vient... Non, la promesse c'est « je veux être là, je veux marcher au milieu de mon peuple, je veux habiter et demeurer au milieu de mon peuple ». Alors, partout où on va, l'Éternel est avec nous. Dans les choses extraordinaires qu'on accomplit pour sa gloire, et dans celles dans lesquelles on tombe lamentablement. Dieu est présent dans toutes ces choses-là. Dans toutes ces choses-là. Mais ça implique pour nous de marcher avec confiance, de marcher avec foi, qu'on n'avance pas seul, y compris face à l'ennemi, y compris face à la maladie, y compris face au péché, y compris face à l'incompréhension, à ce qui est dur, à la tribulation. Nous n'avançons jamais seuls. Jamais, jamais, jamais seuls. Et comprenons aussi, chacun de nous, qu'on porte en nous une dimension de la présence de Dieu. Et donc, c'est comme marcher dans la nuit avec une lampe torche. Premièrement, le fait de laisser cette présence de Dieu en nous s'exprimer et de laisser de la place à Dieu en nous, ça éclaire notre chemin. Premièrement, ça évite qu'on continue de marcher dans la nuit noire. Et deuxièmement, ça attire, les amis. Il y a une dimension de la présence de Dieu que nous portons qui a une saveur particulière et qui attire les autres. Et soyons conscients de ça. Ce n'est pas de l'orgueil que de dire que nous sommes différents en tant que chrétiens, en tant que fils et filles de Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil, parce que ça ne dépend pas de nous. On n'est pas meilleur, on n'est pas mieux. Par contre, Dieu choisit d'habiter à l'intérieur de nous. Et donc, quand je me déplace, la présence de Dieu est là aussi. Et cette présence, elle fait une différence pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Combien on entend de témoignages où des chrétiens sont juste une bénédiction dans leurs entreprises d'être là? Combien on entend de témoignages que simplement d'avoir des chrétiens qui étaient présents dans une ville et qui louaient le Seigneur, la ville changeait, y compris dans son économie, y compris dans plein de choses. Je veux dire, les témoignages sont nombreux parmi toute la terre qu'il y a quelque chose qui nous dépasse quand nous marchons quelque part, parce que nous ne marchons pas seuls. Voilà. Parce que Dieu marche avec nous. Et cette vérité de la présence de Dieu en nous par son esprit, le fait que Dieu soit là en permanence, ça devrait nous encourager à prier « Seigneur, ouvre mes yeux sur toi » plutôt que « Seigneur, viens maintenant ». Moi, je fais partie de ceux qui longtemps ont prié « Seigneur, viens » comme si Dieu n'était pas là et qu'il fallait que Dieu vienne. Mais finalement, si je veux être totalement biblique, cette prière, elle n'est pas totalement juste. Elle n'est pas juste. La Bible me dit que Dieu habite en moi parce qu'il a choisi de le faire. Et je crois qu'on a surtout besoin, en fait, que l'Esprit vienne ouvrir nos yeux sur cette réalité-là, vienne ouvrir nos yeux sur le fait que Dieu habite parmi nous, qu'il est déjà là, ok ? Plutôt que de dire « Mais Seigneur, viens encore ». Donc ça, c'est en tant qu'individu, voilà comment ça peut nous parler le fait que ce temple soit un lieu d'habitation. En tant qu'Église, ça peut nous parler vraiment sur les mêmes points que ceux que je viens d'évoquer, mais à un niveau communautaire. Et moi, je voudrais nous encourager, par rapport à ce que je viens de dire, à ne pas accueillir la présence de Dieu au milieu de nous comme s'il n'était pas là. N'accueillons pas la présence de Dieu comme s'il n'était pas là. Considérons qu'alors que nous nous rassemblons, le lieu où nous nous trouvons est saint. Qu'il est déjà rempli de la présence de Dieu. On a surtout besoin que l'Esprit nous révèle une dimension de la présence de Dieu qui est déjà là, plus que d'être un toboggan qui ferait descendre Dieu du ciel, parce que Dieu n'était pas là. C'est des conceptions qui sont fausses. Alors oui, par contre, ça c'est vrai, on peut accueillir une dimension plus grande de la présence de Dieu parmi nous. Parce que Dieu choisit aussi de se révéler de manière plus puissante. Il choisit de se révéler de manière plus claire. Il choisit de faire tomber parfois un poids de sa gloire d'une manière absolument particulière, absolument lourde, absolument pesante, ou d'autres fois de nous révéler une dimension de son amour qui est nouvelle, ou de sa grâce. Donc oui, nous accueillons une dimension nouvelle de la révélation de Dieu alors que nous sommes ensemble, alors que nous prions, ou alors que nous sommes seuls aussi. Mais jamais nous n'accueillons Dieu parce qu'il n'était pas là. Jamais. Et je trouve que c'est réjouissant pour nous de se dire qu'il n'y a pas un processus particulier pour faire venir Dieu parmi nous. Il n'y a pas un nombre de champs nécessaires pour que Dieu vienne nous trouver et vienne nous rencontrer. Du moment où nous nous rassemblons, du moment où nous avons choisi de nous rassembler, Dieu est au milieu de nous. Ça nous parle aussi sur cette dimension du fait que nous sommes le sel de la terre, j'en parlais un peu tout à l'heure. Nous sommes le sel de la terre parce que nous portons la saveur de Christ, pas parce que, alors qu'on est converti, on devient quelqu'un de meilleur ou que par nous-mêmes, on a une saveur particulière en tant que chrétien. La saveur que nous portons, c'est celle de la présence de Dieu en nous et c'est rien d'autre que ça. Mais si le sel perd sa saveur, si nous éteignons cette présence de Dieu à l'intérieur de nous, si nous ne prenons pas l'habitude de faire équipe avec le Saint-Esprit dans notre manière de marcher jour après jour, alors oui, le sel perd la saveur de la vie de l'Esprit à l'intérieur de nous. Et considérons, alors qu'on dit qu'on est le temple du Saint-Esprit ensemble, que cette parole sur le sel, elle est pleine de promesses. De dire que c'est une grâce que d'être la lumière du monde parce que la lumière de Christ brille en nous. C'est une grâce que de se dire que Dieu a choisi de se révéler au monde au travers du fait qu'il a choisi comme lieu d'habitation chacun de nous et son Église. Et c'est aussi une responsabilité de dire en tant qu'Église, nous voulons briller de ta lumière, Seigneur. Oui, nous voulons être non pas un temple caché au milieu de la forêt, bien caché par les arbres ou au fond d'une grotte. Non, Seigneur, nous ne voulons pas avoir peur d'être visibles. Et nous voulons l'être davantage, parce que tu as choisi d'habiter au milieu de nous. Alors il y a juste un préalable au fait d'être cette habitation de Dieu, j'en parlais juste un petit peu tout à l'heure, c'était la dimension de la nouvelle naissance, la dimension du fait de naître de nouveau, je voulais juste passer rapidement là-dessus. La nouvelle naissance, c'est quoi ? La nouvelle naissance, c'est pour chacun de nous, c'est individuel, c'est une nouvelle vie qui implique premièrement la mort à notre ancienne nature, et c'est dans la manière dont nous répondons à l'Éternel, dans la manière dont nous répondons à l'Évangile et où nous donnons notre vie, il y a cette dimension de une vie nouvelle nous est donnée parce que nous choisissons de mourir à notre ancienne nature. C'est la première étape qui se passe dans la nouvelle naissance. La deuxième étape, c'est que Dieu crée en nous une nouvelle nature. Il ne cherche pas à améliorer l'ancienne. Il donne une nouvelle nature. Ne faisons pas du développement personnel pour devenir juste de meilleurs chrétiens. Acceptons juste que Dieu transforme complètement, que Dieu change totalement. L'Évangile n'est pas une option de plus, il n'est pas un bonus. Il est une mort et une résurrection en Christ et une vie nouvelle et la création d'une nouvelle nature. Et enfin, la nouvelle naissance, c'est la vie surnaturelle de l'Esprit en nous. Et voilà pourquoi, au travers de la nouvelle naissance, je deviens le temple du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit vient demeurer en moi et qu'il agit selon sa vie surnaturelle. Et enfin, sur ce dernier point de l'habitation, souvenons-nous, on a dit tout à l'heure que les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu et que pourtant il vient demeurer en nous. Eh bien, je voudrais dire, les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu, nos cœurs non plus. Nos cœurs non plus. Et Dieu n'habite pas en nous dans toute sa plénitude. Il y a 2 Corinthiens 1, Éphésiens 1, Romains 8 et d'autres encore qui nous expliquent que nous n'avons que les zars de l'Esprit. Nous n'avons que des prémices. D'accord ? Dieu vient demeurer en nous à la fois pleinement, mais dans une portion de sa présence. D'accord ? La plénitude de Dieu n'est pas encore là. Nous avons simplement les prémices et le gage aujourd'hui de ce que nous allons pouvoir vivre demain quand Jésus sera revenu et que nous serons au ciel avec lui. Alors quand on dit que Dieu demeure en chacun de nous, quand on dit que Dieu habite en nous, ce n'est pas la totalité de Dieu qui habite en chacun de nous. D'accord ? Donc c'est aussi pour ça que nous prophétisons en partie. C'est pour ça que nous agissons avec défaut. C'est pour ça que nous avons des songes et que ces songes-là peuvent aussi être en partie qu'ils ne sont pas paroles d'évangile. Pourquoi ? Simplement parce que Dieu habite en portion dans chacun de nos cœurs. Okay ? Ce sont des prémices D'accord ? Et nous avons encore l'éternité pour nous émerveiller de la gloire de Dieu, de sa magnificence. Nous allons le contempler sans voile ce jour-là. Mais pour l'instant, nous le voyons encore comme au travers d'un miroir. Nous ne voyons pas encore parfaitement. OK ? Donc que personne, ici non plus, si je fais ce point-là, c'est que personne d'entre nous et que l'Église non plus ne se dise pas « j'ai la présence de Dieu ». J'ai la présence de Dieu. Non, Dieu habite en nous selon une portion de sa présence. Point. Et ça nous garde humbles. Et ça nous garde dépendants que Dieu continue d'agir plus encore, encore et encore avec nous. OK, donc ça, c'était la première chose. Un lieu d'habitation. Le deuxième, je vais aller plus vite sur le reste. La deuxième fonction du temple, c'est un lieu d'adoration. D'accord ? Donc être le temple de Dieu, ce n'est pas qu'une question d'être un endroit ou un lieu où Dieu demeure, mais vraiment un lieu où Dieu va être adoré. Il demeure là pour être adoré. Et nos vies donc lui rendent gloire, jour après jour, c'est ça que ça implique, hein, c'est le but de nos vies. La louange à la gloire de notre Seigneur, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option, c'est la fonction, c'est une des fonctions essentielles du temple. La louange à la gloire de notre Dieu n'est pas une option. Et ce n'est pas non plus une activité de l'Église quand on se retrouve. C'est le sens de nos vies. C'est le but premier de pourquoi nous nous rassemblons, pour célébrer la grandeur de Dieu. Et pourquoi on a un temps d'enseignement aussi ? Eh bien que ce temps d'enseignement, il pose dans nos cœurs des trésors qui nous donnent envie de louer Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, parce qu'on a une révélation plus grande de ce qu'il accomplit, et ça conduit à la louange. Voilà la finalité de toute chose. Nous évangélisons, nous sommes le sel de la terre parce que nous voulons que d'autres reconnaissent la lumière qui est en nous et adorent la lumière. La finalité n'est pas juste qu'ils reconnaissent la lumière et qu'ils l'acceptent, mais que la lumière soit adorée, que Dieu soit adoré. Et l'Esprit qui est en nous, alors qu'on est le temple du Saint-Esprit, c'est l'œuvre qu'il fait. Il nous révèle le Père et le Fils, il se plaît à faire ça. Et il éveille en nous une louange à la gloire de Dieu. Alors, ça implique pour chacun d'entre nous de ne pas négliger la dimension de la louange dans nos vies. Cette dimension-là, elle est absolument primordiale. Dans toutes les formes que peut prendre la louange, Farid a parlé des arts tout à l'heure, c'est les arts au sens large, même si au milieu de toutes ces formes, la louange chantée a une place vraiment particulière dans la dimension que Dieu lui a accordée. Cette dimension de proclamer avec notre bouche des choses à haute voix est une dimension très forte de la louange. Donc, ne négligeons pas la dimension de la louange dans nos vies personnelles. Hein. Prenons la bonne habitude d'ouvrir nos bouches. Prenons l'habitude de célébrer ce que Dieu est, ce qu'il fait, de le remercier tous les jours. En tant que temple, c'est la fonction pour laquelle nous sommes le temple. D'accord ? Que Dieu demeure et qu'il soit loué pour ça. Alors adorons. Que Dieu y soit glorifié au travers de nos vies. Des fois, on le chante, et puis le reste de la semaine, et je me mets dans ce panier-là, hein, le reste de la semaine, est-ce qu'en fait, consciemment, est-ce qu'intentionnellement, est-ce qu'il y a des moments dans la semaine où je choisis de glorifier Dieu au travers de ce que je fais, de choisir de glorifier Dieu en ouvrant ma bouche, etc. Pendant longtemps, je n'ai pas eu conscience pleinement de ça, et c'est dommage. Et donc j'aimerais vous encourager à ça, à considérer que c'est une affaire de tous les jours, que si nous disons que nous sommes le temple, alors nos vies glorifient, parce que c'est la fonction du temple. Que ce soit un lieu où Dieu est adoré, et que ma vie soit donc un lieu où Dieu est adoré. Que ce soit un choix de notre part. Et en tant qu'Église, bah de la même manière, hein, ça nous parle de l'importance de la louange dans nos temps de rencontre. Hein. C'est pas une habitude, c'est pas effectivement un process pour faire venir la présence de Dieu, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est juste le sens de pourquoi nous nous rassemblons, célébrer qui Dieu est. Et je voudrais juste citer Tozer, qui est un théologien, pasteur du XXe siècle américain, qui dit cette phrase un peu dure. Voilà. Je peux affirmer avec certitude, sur la base de tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu, que tout homme ou femme sur cette terre qui s'ennuie et est rebuté par la louange n'est pas prêt pour le paradis. Je vous la relis. Je peux affirmer avec certitude, sur la base de tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu, que tout homme ou femme sur cette terre qui s'ennuie et est rebuté par la louange n'est pas prêt pour le paradis. Alors, cette citation, elle peut paraître un peu dure, hein, au premier abord, quand on la lit. Elle interpelle, et pourtant, je vous assure qu'elle est profondément vraie. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'éternité ? On va louer. On va passer l'éternité à adorer Dieu. Et si aujourd'hui la louange m'ennuie, je ne parle pas du style de louange, je ne parle pas du style de chant, je ne parle pas du style musical, je ne parle pas de l'équipe, je ne parle pas des CD que vous mettez ou de ce que vous écoutez sur Spotify, je ne parle pas de ça. Je parle de si la louange de Jésus, la louange du Père, est quelque chose qui nous ennuie, dans laquelle on ne trouve pas de plaisir, ben je crois que c'est bon qu'on se laisse interpeller par cette citation de Tozer qui dit « Mais est-ce que je suis vraiment prêt pour le ciel ?» Si ça, ça m'ennuie aujourd'hui, est-ce que je suis prêt à passer l'éternité à faire ça ? Ça veut peut-être juste dire qu'on n'a pas encore découvert le plaisir qu'il y a à glorifier et à célébrer notre Dieu. Dieu est inclusif, et alors que nous le célébrons, il y a un plaisir qui grandit dans nos cœurs à faire ça. Il y a un plaisir à découvrir. Comment louer Dieu ? Donc, je trouve que cette citation, elle met un coup de projecteur sur la tiédeur de nos cœurs, parfois, un coup de projecteur sur la manière dont on loue Dieu, alors parfois ou toujours, et je voudrais vraiment nous encourager à ce que ce ne soit pas une phrase culpabilisante pour chacun de nous, mais que ce soit juste une opportunité de nous interpeller sur notre manière de louer, nous interpeller sur notre manière d'ouvrir notre bouche pour célébrer qui est Jésus. Ne soyons pas blasés, s'il vous plaît, de la louange. Ne soyons pas blasés. Et au travers de ce que je dis ce matin, j'espère que vous entendez en fait l'importance de la dimension de la louange dans l'Église. C'est pas une activité. C'est pas une activité. Nous sommes le temple pour être un lieu d'adoration. C'est Dieu qui a choisi que ce soit comme ça. Et si Dieu a choisi que c'était comme ça, c'est qu'il y a de très bonnes choses à découvrir en plongeant encore plus dans cette dimension de l'adoration au milieu de nous. Le fait qu'on soit nombreux devrait encourager personne à se cacher, d'accord ? On a dit des fois ce matin là que, ok, les enfants, ils font un peu de bruit au milieu de nous, derrière. Moi, je crois qu'on est capable de faire plus de bruit que les enfants, parce qu'il n'y a que 2-3 bébés là au fond qui de temps en temps font un peu du bruit, dont la mienne. On est bien plus d'adultes que ça. Ouvrons nos bouches, s'il vous plaît. Ouvrons nos bouches. Crions, chantons fort pour la gloire de notre Dieu. Que notre louange, elle soit passionnée, qu'elle soit l'expression d'un désir ardent qui est là, au fond de nos cœurs, de juste déclarer et célébrer les merveilles de notre Seigneur. Ne soyons pas blasés par la louange, s'il vous plaît. Ne soyons pas blasés, les amis. Ok. Donc, un lieu d'habitation, un lieu d'adoration, et troisièmement, le temple est un lieu de consécration. Hein, c'est la troisième fonction essentielle, fonction majeure du temple. Pourquoi ? Le temple, en fait, il ne pouvait pas servir à autre chose. Quand le temple est bâti, tout de suite, il est consacré. D'accord ? Il est consacré à l'Éternel, comme étant un lieu dédié. À l'époque où ils faisaient même du camping dans le désert, le tabernacle était, quand c'était encore une tente, c'était déjà un lieu consacré. Avant même que ce lieu soit fait par des pierres, c'était un lieu consacré. Et depuis que ces pierres, elles ont écroulé et que Jésus a ouvert une dimension spirituelle du temple, nous sommes aussi un temple consacré, les uns et les autres. Cette fonction-là du temple n'a pas évolué dans la Nouvelle Alliance. Cette dimension de la consécration n'a pas évoluer. Et alors qu'on est le temple de Dieu, j'ai envie de nous laisser cette question-là. Est-ce que nous servons à autre chose qu'à ça ? Est-ce que nous servons à autre chose qu'à Dieu ? Est-ce que nos vies, est-ce que nos habitudes, est-ce que nos cœurs, est-ce que notre fonctionnement sert à autre chose qu'à la gloire de Dieu ? Encore une fois, hein, c'est sans culpabilité. Aucune, parce que la grâce de Dieu est immense. Par contre, plusieurs fois l'Éternel vient mettre le doigt sur « Ok, est-ce que c'est vraiment juste la manière dont tu fais les choses aujourd'hui ? » Et est-ce que nos vies sont consacrées parce que c'est un mot, oui, on est d'accord, on est consacré à l'Éternel. Est-ce que nos vies sont vraiment consacrées à l'Éternel ? Est-ce que cette dimension de la consécration, on la prend à la légère, ou est-ce qu'elle est réelle dans nos vies? Et sans tomber dans un légalisme, ce n'est pas l'idée de dire que je gagne quelque chose au travers de ma consécration. Là, je serai légaliste, là, je poserai une loi. Je suis simplement en train de dire, les amis, ce que la parole de Dieu, elle dit, que nous sommes consacrés à l'Éternel. Jésus, il nous dit que nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes pas du monde. Ça a une valeur, cette parole. Et Paul, il exhorte les Corinthiens en leur disant ça, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure de Corinthiens 6, mais le passage un peu plus large dit « Ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants. » Il était en train de reprendre les Corinthiens sur le fait qu'il laissait des personnes qui n'étaient pas à Christ venir modeler ce qu'ils pensaient, et puis aussi qui étaient au milieu de l'Église et qui ramenaient aussi au milieu de l'Église des pratiques qui n'avaient rien à voir avec ce que la parole de Dieu disait. Donc c'est dans ce contexte-là que Paul s'exprime aux Corinthiens en leur disant « Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. » En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit, et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas moi qui fais un message ce matin qui a pour but de culpabiliser qui que ce soit. C'est la parole de Dieu qui nous exhorte dans tout l'amour, dans toute la grâce que Dieu a, de dire voilà la destinée, voilà le chemin, l'objectif, et puis sur ce chemin-là, ma grâce, elle agit. Ma grâce, elle relève, parce que oui, on va tomber. qui va pas tomber ici? Oui, on va tomber encore et on va tomber encore. Mais la grâce de Dieu va relever encore et encore pour que nous marchions avec plus de justice et que nous séparions la justice et le mal, le temple de Dieu et les idoles. Ok? Individuellement, ça nous rappelle que nos vies, elles ont été rachetées au prix du sang de Christ, qu'on est mort à notre ancienne nature et que c'est lui qui vit en nous désormais. C'est ça la nouvelle naissance. Alors oui, nos vies, elles sont consacrées à Dieu. Oui, nos vies, elles sont à Dieu. Oui, il en est le propriétaire légitime. Donc soyons attentifs, soyons vigilants à la manière dont nous avançons. Recherchons, les amis, constamment la sainteté et la pureté dans nos vies. Recherchons ces choses-là, recherchons ces valeurs-là. Recherchons des cœurs purs, des cœurs sans partage, des cœurs qui cherchent à honorer Dieu. Jésus est venu accomplir la loi, mais il ne l'a pas abolie. Les commandements de l'Éternel restent justes parce qu'ils sont bons, parce qu'ils portent du fruit en nous, un fruit qui est juste, un fruit qui est bon. Alors est-ce qu'il y a un péché avec lequel on lutte depuis longtemps, dans lequel on revient régulièrement? J'ai envie de dire, c'est aujourd'hui le temps de s'en défaire. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui le temps de se défaire de ces choses dans lesquelles on tombe régulièrement. Est-ce qu'il y a des compromis qu'on fait trop facilement? Est-ce qu'on s'accommode d'être tiède vis-à-vis de la parole de Dieu? Eh bien, c'est aujourd'hui le temps de choisir de vivre de manière plus radicale. Ça le sera encore demain. Merci Seigneur pour ta grâce. Et ça le sera encore après-demain, ce temps-là. Mais aujourd'hui, moi, je voudrais vous inviter. J'aimerais vraiment qu'on puisse avoir un temps de prière à la fin du culte. Pour ceux qui le veulent, vous venez et on prie. Et on prie pour dire, ok, on se défait de ce péché-là, il y en a marre. C'est aujourd'hui le temps où je me défais de cette chose-là dans laquelle je tombe régulièrement. C'est aujourd'hui le temps où je choisis la radicalité dans ma vie par rapport à ce que dit la parole de Dieu. Pas juste la radicalité d'être violent ou la radicalité de quoi que ce soit ou d'être légaliste. La radicalité juste de dire « Oui Seigneur, je veux te mettre en priorité, je veux que ma vie soit consacrée à toi, je veux vivre selon tes préceptes, selon ce que tu nous enseignes. Hein » On est un lieu de consécration, chacun d'entre nous, et aussi ensemble en tant qu'Église. Donc, Voilà. Venez et prions ensemble pour ça à la fin du culte, pour ceux qui le veulent. Et ensemble, en tant qu'Église, recherchons le zèle de l'Évangile pour vivre selon la volonté de Dieu. C'est ce que produit l'Évangile en nous. Un zèle pour vivre conformément à la parole de Dieu. Alors exhortons-nous les uns les autres, que je ne sois pas le seul à le faire ce matin, exhortons-nous dans nos relations à vivre les uns et les autres de manière sans compromis vis-à-vis de ce que dit la parole. Pas vis-à-vis de ce qu'on pense, vis-à-vis de ce que dit la parole de Dieu et vis-à-vis de la compréhension qu'on en a aujourd'hui. Exhortons-nous avec amour là-dedans. Exhortons-nous avec grâce à vivre de manière sainte, de manière juste, de manière digne de l'héritage que nous avons en Christ, d'être le temple consacré de l'Éternel, les uns et les autres. Et que cette consécration, elle nous parle aussi en tant qu'Église de ce qu'on laisse rentrer au milieu de nous. Et là, c'est tout le monde, c'est l'affaire de nous tous. Qu'est-ce que nous laissons rentrer au milieu de l'Église qui n'est pas juste ? Il y a peut-être certaines idées, certaines habitudes, certaines cultures, certains comportements, certaines blagues, certaines tenues, certains... je sais pas quoi encore. Certains jeux de téléphone qui n'ont pas leur place ici. Ça n'a pas leur place ici. Soyons vigilants à ce que nous faisons rentrer au milieu de nous. Considérons que c'est un lieu saint. Pas parce qu'il y a juste quatre murs. Si on est la même assemblée à l'extérieur, c'est la même chose. Considérons au milieu de nous que nous sommes un lieu saint. Et exhortons-nous là aussi, avec grâce et avec amour, à marcher avec plus de pureté au milieu de nous. Soyons un encouragement les uns pour les autres, un modèle les uns pour les autres là-dedans. Prions les uns pour les autres aussi. On a l'autorité au nom de Jésus, pas seulement les responsables. Vous avez chacun d'entre vous autorité au nom de Jésus pour aider quelqu'un qui vient vous livrer quelque chose, de prier au nom de Jésus, de dire « Ok, on va prier par rapport à ça ». Voilà, et enfin, je vais passer très très vite sur la fin, 5 minutes. On parle de temple, on parle de maison, et j'aimerais juste terminer en parlant de 2 points d'architecture qui sont importants. Je ne les détaillerai vraiment pas, hein, parce que je pense qu'on fera un prochain message là-dessus, mais je ne pouvais pas parler du temple, je ne pouvais pas parler d'une maison ou d'une habitation sans parler de cette dimension architecturale. Je veux parler en fait du fondement apostolique et prophétique dont nous parle Paul dans Éphésiens, où il nous dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Et c'est ces deux choses-là dont je veux parler, le fondement apostolique et prophétique et Jésus, la pierre angulaire. « C'est en lui, en Jésus, que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui aussi que vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. » Voilà le dessein de Dieu, que nous formions une habitation de Dieu en esprit. Et remarquez hein, qu'on est dans un processus d'édification dans ce passage. La Bible ne dit pas qu'on est édifié une fois pour toutes. Elle dit que oui, ces fondations ont été posées une fois pour toutes, mais que nous sommes dans un processus d'édification, pas un édifice terminé. Alors le fondement apostolique et prophétique, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Et je vais juste en parler très brièvement. Le fondement apostolique implique que nous soyons fondés sur l'autorité de la parole. Ne transigeons pas avec ce que dit la parole. Nous sommes fondés sur l'autorité de la parole. Voilà le fondement apostolique. Il nous est révélé par les apôtres qui ont écrit dans la parole de Dieu et qui composent aujourd'hui ce canon biblique, accordant de l'autorité à ce que dit la Bible, plus qu'aux interprétations que nous pouvons en faire. Il y a des sujets qui laissent lieu à interprétation. Laissons des interprétations, ne fondons pas des fois trop de certitudes sur des choses sur lesquelles la Bible ne dit pas clairement les choses, ou n'allons pas plus loin que la parole de Dieu. La parole est suffisamment claire pour le socle et la fondation dont nous avons besoin dans nos vies. Donc la Bible fait autorité, et elle fait plus autorité que n'importe quoi d'autre dans nos vies, s'il vous plaît. Et le fondement prophétique a trait à la conduite de l'esprit. Que cette lettre, que cette écriture, que cette parole de Dieu n'est pas une parole morte. Elle est vivante par le Saint-Esprit. Et cette dimension de la vie de l'Esprit en nous, elle est absolument essentielle. Pourquoi ? Ben parce que l'Esprit nous révèle la parole. Il nous révèle Christ. Il nous révèle ce qui est enseigné. Il nous révèle le trésor qu'est la parole. Il nous révèle cette fondation dans nos vies Et il nous enseigne à être plus fort, plus solidement attaché sur le roc. Ok ? Donc, la parole et l'esprit. Voilà pourquoi on dit souvent qu'on est une église fondée sur la parole et l'esprit, parce que ces deux dimensions-là ne sont pas négociables, en fait, dans notre vision. Elles ne sont pas négociables dans notre fonctionnement, elles ne sont pas négociables dans nos vies individuelles, elles ne sont pas négociables dans nos temps de rencontre. Nous voulons accorder de l'importance à la parole de Dieu et à la vie de l'esprit au milieu de nous comme étant deux éléments fondateurs. Donc ça nous implique de chérir ces deux dimensions-là, les uns et les autres, et de les considérer comme des fondations essentielles. Hein. Et j'ai dit qu'il y avait, dans cette fondation-là, il y a quelque chose de particulier, c'est Jésus en tant que pierre angulaire, et je finirai du coup vraiment par là, de considérer que Jésus est la pierre angulaire. Je ne sais pas si, moi pendant longtemps, je pensais que la pierre angulaire, c'était la pierre de voûte, celle qui était en haut de l'édifice. En fait, la pierre angulaire, c'est celle qui repose à l'angle de la fondation, d'accord ? Et c'est sur celle-là que vient s'appuyer toute la fondation. Il y a une pierre, si vous enlevez cette partie-là, le reste de la maison qui est accroché dessus tombe. D'accord ? C'est celle-là, la pierre angulaire. Elle fait partie de la fondation. Et voilà pourquoi Jésus nous dit « Je suis le rocher sur lequel nous bâtissons ». Il n'est pas à la fois le rocher et à la fois l'espèce de pierre de voûte là qui est tout en haut. Non, il est là. C'est celui sur lequel nous reposons fermement et où nous pouvons nous assurer que cette maison-là, elle ne va pas s'écrouler. Pourquoi ? Parce que ça ne dépend pas des apôtres. Ça ne dépend pas de la dimension de l'expression prophétique. Ça dépend de Christ qui est cette pierre d'angle dans la fondation. Okay ? Donc, fondement apostolique et prophétique, c'est que nous avons la parole d'un côté, nous avons l'esprit de l'autre, et nous avons Christ au centre sur lequel nous pouvons nous appuyer. Et alors que nous chérissons la présence et la centralité de Christ dans l'Église, que nous chérissons la parole, que nous chérissons l'esprit, oui, nous sommes édifiés solidement pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est le dessein que Dieu a choisi de faire au milieu de nous. C'est une façon d'être un édifice solide. Et donc, en conclusion, je vais juste redire ce que j'ai dit ce matin. Nous sommes le temple de Dieu par son esprit. Nous sommes un lieu d'habitation de Dieu. Nous sommes un lieu d'adoration de Dieu. Nous sommes un lieu de consécration à Dieu en étant établi sur le fondement apostolique et prophétique, sur l'autorité de la parole et sur la vie de l'esprit avec Christ au centre de toute chose. Voilà ce que ça implique pour nous, à la fois individuellement et à la fois en tant qu'Église, que d'être le temple de Dieu et que d'être appelé cette habitation de Dieu. Alors j'espère que ce message ce matin, pour vous, il est plein de promesses, parce qu'il y a énormément de promesses dans ce que j'ai pu dire ce matin, de ce que Dieu veut faire au travers de chacune de nos vies et au travers de son Église. Moi, ça m'encourage sur l'autorité que nous avons en tant qu'Église et en tant que chrétiens dans ce monde, d'être dans le monde, mais pas du monde. Porteur de la présence de Dieu. Amen. Amen. Amen.